Les masques tombent sur RCM.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Masques tombent, votre émission qui parle de culture et de vie associative sur le territoire du Grand Nancy. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une émission spéciale table ronde en collaboration avec la DILCRA.
RCM, Les Masques tombent.
Et dans cette émission spéciale, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités que l'on va présenter successivement à tour de rôle. À ma droite, Laila Yeish, qui est donc bénévole pour Amnesty. Bonjour.
Bonjour.
Juste, on continue le tour de table. Nous avons également Gauthier Pizzi, qui est président de SOS Racisme Lorraine. Bonjour.
Bonjour.
Et également, à côté de vous, Mohamed Ben Chaban, qui est président de Potentiel Solidarité et anciennement d'SOS Racisme également. Bonjour.
Bonjour.
Merci à tous les trois d'être ici avec nous. Et je vous propose de présenter d'abord un peu vos associations. On peut se dire qu'on commence par vous, Laila. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu d'Amnesty ?
Alors, Amnesty, c'est une asso qui a vu le jour en 1961. Donc elle a été créée par Peter Benenson et à l'origine, c'était vraiment une asso pour libérer les prisonniers d'opinion. Donc c'est parti d'une première victoire et après, au fur et à mesure, Amnesty, elle s'est internationalisée et c'est devenu vraiment une asso qui est présente dans le monde entier. Donc on a énormément d'actions pour promouvoir les droits humains et les droits de l'homme plus généralement. Et moi, je suis bénévole au sein d'Amnesty International sur l'antenne nancéenne. Et on mène énormément d'actions de sensibilisation, de tractage. On essaie de sensibiliser au mieux les jeunes, surtout aux questions des discriminations, des inégalités, des droits de l'homme. Et voilà, donc aujourd'hui, Amnesty, c'est une asso qui est présente dans plus de 70 pays et elle compte plus de 10 millions de bénévoles. Et c'est quelque chose vraiment de merveilleux de voir qu'autant de gens en fait, s'investissent pour ce genre de cause. Et voilà tout.
Je pense, alors on a présenté Amnesty, mais la plupart des gens connaissent, je pense. On a déjà au moins entendu parler de l'association. Donc c'est, et puis, Jérémy, c'est une ONG. C'est aussi ça qu'il fallait dire. Le terme était intéressant aussi. Je ne sais pas ce que ça implique de différent par rapport à une association, une organisation non gouvernementale, du coup.
Alors, elle n'est pas influencée par quelconque État. Ouais. Et aujourd'hui, elle est si grande qu'elle a même un rôle consultatif en fait, à l'ONU. Donc oui. Ça prouve l'importance d'Amnesty International et ça prouve aussi le rôle fondateur que les associations peuvent jouer. Et ici, du coup, une ONG peut jouer à l'échelle internationale. Oui.
Donc ça parle, vous militez pour le respect des droits humains au sens large, ça englobe beaucoup d'actions, on en reparlera. Et justement aujourd'hui on va centrer un peu sur la lutte contre le racisme et les discriminations liées à l'origine et à l'ethnie, qui est quelque chose que vous combattez historiquement. Et par exemple sur votre antenne, du coup donc l'antenne de Moselle-Est, si je le dis correctement, vous êtes combien à peu près de bénévoles qui menaient un peu ces actions au niveau local ?
Alors, on est énormément, étant donné qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs représentants. Donc moi, par exemple, je me suis engagée auprès des jeunes Amnesty de Sciences Po, étant donné que je suis étudiante à Sciences Po. Et en fait, tous ces jeunes Amnesty qui sont dans plusieurs écoles et plusieurs institutions, en fait, se rejoignent au sein de l'antenne de Nancy. Et donc, du coup, ça crée vraiment une grande communauté, étant donné qu'il y a aussi des gens de l'extérieur qui sont bénévoles. Mmh. Et je pense qu'on est à peu près plus d'une trentaine. Mmh. Donc, on a quand même un grand champ d'action. On s'engage énormément, oui.
Et c'est encore possible c'est possible de vous rejoindre aussi, évidemment. Il n'y a pas de contrainte d'âge, d'études, je ne sais quoi.
Non, il n'y a aucune contrainte. On a vraiment des bénévoles de tout âge. Ça commence assez jeune et puis ça peut aller jusqu'à très vieux. On a énormément de bénévoles qui sont à la retraite et qui justement font ça aussi pour trouver un sens en fait à leur temps libre. Et c'est quelque chose vraiment de très cool. Enfin, on mélange les générations. Il y a vraiment cet esprit d'équipe et cette motivation commune. Ouais.
Je me tourne vers vous à présent, Gauthier. Vous êtes donc président maintenant de SOS Racisme Lorraine. Il y a une petite histoire, on y reviendra après avec vous, monsieur Ben Chaban. Vous êtes président depuis octobre 2024, c'est ça ?
Exactement.
Donc comment cet axo existait déjà avant et à quel moment vous êtes revenu dedans et pourquoi avoir rejoint cet asso ?
Eh bien, tout d'abord, donc, SOS Racisme Lorraine, donc c'est une structure qui appartient donc à l'association nationale SOS Racisme, facilement reconnaissable avec la main jaune, dont le logo fait un peu tout le tour.
Ouais.
Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, en fait, j'ai vécu une agression donc en juillet 2023. j'étais victime d'une agression raciste, à caractère raciste et homophobe. Donc à cette époque-là, j'ai été approché par SOS Racisme qui m'a pris en charge au niveau juridique.
D'accord.
Et donc, ce qui se passait, c'est que le point relais était à Metz. Parce qu'en fait, il y avait des associations qui étaient déclarées à la préfecture, mais qui n'étaient plus actives. Mmh. Donc, pendant la judiciarisation de mon affaire, la façon dont, on va dire, j'ai mené à bien mon combat a fait que j'ai attiré l'attention du bureau national et ils m'ont dit, nous, on aimerait bien que tu reprennes une structure sur Nancy pour justement assurer le relais et que tu la redéveloppes. Donc, c'est ce que j'ai fait et grâce à la mairie, aux collectivités territoriales qui ont été très réceptives et très réactives, du coup, on a mis en place le comité en octobre 2024 et depuis, nous avons réaliser toute une myriade d'actions. Mais surtout, ce qui était important, c'était d'abord d'inscrire en fait l'association dans le paysage en créant des liens vraiment étroits de manière à assurer la fiabilité et la viabilité de l'association. Parce que le but, c'était pas que ça soit juste temporaire, fallait que ça soit permanent, parce qu'à ce moment-là, dans le contexte dans lequel l'association avait été créée, on avait observé une recrudescence des crimes et des délits à caractère raciste dans toute la métropole. Et donc, c'était une urgence.
Oui.
Donc le comité s'est rapidement mis en place et... Donc nous avons commencé par réaliser des actions en décembre 2024. Nous avons organisé des repas pour les pensionnaires de l'ARS, des structures, c'est-à-dire c'est des personnes qui sont prises en charge, qui sont en général à la rue, donc qui bénéficient d'un logement temporaire. Et par la suite, nous avons aussi directement intervenus dans les écoles donc, pour mener des actions de sensibilisation. Donc nous avons mené une vingtaine d'actions. Donc avec des lycées tels que Chopin, les collèges tels que Albert Camus. D'ailleurs, pendant la semaine de sensibilisation de cette année, au mois de mars, avec le collège Albert Camus, nous avons réalisé une campagne d'expression artistique donc qui consistait en fait à mettre à disposition des collégiens volontaires une salle pour pouvoir en fait s'exprimer sur la thématique du racisme, de la discrimination et de l'antisémitisme. Et donc ils ont répondu favorablement, c'est-à-dire que sur leurs heures de pause récré et de déjeuner, ils ont réalisé 183 affiches. Donc il y a une centaine de participants. Et par la suite, la ville de Jarville a généreusement mis à contribution leur sucette publicitaire JC Déco.
Oui.
Donc après ça a été affiché dans toute la ville, donc ça permettait en fait aux jeunes de pouvoir observer leur travail. Et ce qu'on a constaté, le constat qui avait été fait, sachant qu'en fait c'est quand même un établissement en zone prioritaire, c'est que du coup les jeunes étaient très demandeurs. Et on s'est rendu compte que pour autant, dans des collèges où il y a énormément de diversité, que ce soit au niveau culturel, religieux, etc., qu'il y avait réellement ce fléau qui gangrénait en fait. Et les jeunes, le but étant de montrer que les jeunes, se lever contre ça. C'est-à-dire que bien souvent, c'est inculqué peut-être par leurs parents et les jeunes n'étaient pas d'accord. Donc ça, c'était hyper important et donc c'est une action qui en fait va être remise d'actualité, donc là, à une plus grosse ampleur au niveau de la métropole. Donc du coup, il y a des partenariats qui ont été déjà réalisés avec le rectorat, parce que du coup, on fait partie des 10 associations qui ont établi un lien avec le rectorat. Nous avons également... établi des conventions et des partenariats avec la métropole sur des actions que je peux pas forcément étayer tout de suite parce qu'elles n'ont pas encore été rendues publiques.
D'accord.
Mais c'est un travail de 6 mois qui avait été réalisé. Et puis, à côté de ça, nous avons pas mal d'actions, donc des conférences. On avait aussi réalisé une conférence à la mairie de Nancy, donc en partenariat avec la ville, où nous avions invité le président national Dominique Sopo. Et puis, quoi d'autre? De toute façon, cette association, en fait, elle s'articule autour de 3 leviers, principalement.
D'accord.
Donc, l'éducation, la culture et le droit.
Oui.
Donc, nous avons le pôle d'éducation populaire qui effectue pas moins de 500 interventions en France, dans les établissements scolaires quels qu'ils soient, donc aussi bien école primaire, collège, lycée, université, CFA.
Donc là, vous parlez au nom de l'ensemble du réseau SOS Racisme.
Ouais. Exactement. Aussi au niveau des structures sportives, des structures sociales, mais aussi dans les entreprises. Donc, nous bénéficions d'agréments d'éducation nationale, de la jeunesse et du sport. Ensuite, nous avons le pôle juridique qui fournit un travail terrain, donc en accompagnant les victimes dans la judiciarisation de leurs affaires, en leur prodiguant des conseils juridiques, en leur fournissant des avocats, des juristes de notre réseau, ou en leur offrant une cellule d'écoute aussi, hein, tout simplement. Et ensuite, le troisième pôle, qui est le pôle développement, qui met en place des actions militantes, culturelles et sociales. Donc ça peut aussi bien passer par des concerts, des congrès, des tables rondes. Voilà un peu le topo.
Un bel ensemble d'actions, on reviendra plus tard sur tout ça. Merci beaucoup et je me tourne maintenant vers vous, Mohamed Benchaban. Donc vous allez parler un peu au nom de SOS Racisme, de quel vous avez... que vous avez connu il y a un temps, et également pour Potentiel Solidarité. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'association ?
Oui, alors moi je vais revenir un peu, on va faire un peu d'histoire, c'est-à-dire qu'à partir des années 83, vous savez, la marche de l'égalité, la marche de l'égalité va passer sur Lunéville, et sur Nancy aussi, on l'a accueillie. Sur Lunéville, à l'époque, j'étais président d'une association qui s'appelle l'ASAL, l'Association de Solidarité Arabe du Lunévillois, et on l'avait accueilli, la marche de l'égalité. La marche de l'égalité, vous savez, finit à Paris, les marcheurs sont accueillis à l'époque par Mitterrand, et à la suite de ça, il y a tout un travail de mobilisation, et puis il y a des potes à l'époque qui ont effectivement... mobilisés autour de cette fameuse main qui va devenir vraiment un symbole de lutte contre le racisme et contre les discriminations ensuite. Mais contre le racisme, parce qu'elle va... cette mobilisation est importante, parce qu'elle va être nationale, je dirais même presque internationale, parce qu'il y a des comités qui vont se crier sur Berlin, par exemple, avec SOS Mitmush. Et il y a vraiment un mouvement, je dirais pratiquement antiraciste, qui en même temps va, je dirais, va fédérer toutes les discriminations qui étaient à l'œuvre. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'association pour lutter contre l'homophobie, par exemple. Il n'y avait pas même les associations féministes se sont retrouvées dans le mouvement d'SOS Racisme. Oui. C'est comme ça que sont nées beaucoup d'associations, ça va générer... vraiment une énergie de création d'associations. Donc, sur Lunéville, on a à ce moment créé ce qu'on appelait... il y a eu Stop Racisme sur Nancy, juste après cette fameuse marche et la création des SOS Racisme, parce qu'à l'époque, SOS Racisme se voulait national, mais ne voulait pas donner un label aux associations...
Local
qui se crée. Donc, il y a eu des tentatives et il y a eu Stop Racisme qui s'est créé sur Nancy. À la suite de ça, sur Lunéville, on a créé ce qu'on appelait SOS Racisme du Lunévillois. Et nous, on a fait appel à la loi parce qu'il n'y a personne interdit, sauf si vraiment il y a une marque déposée, etc., ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'était pas le cas plutôt. Donc, on a créé SOS Racisme sur le Lunévillois. En travaillant à ce moment-là sur la question des préjugés, etc. Et puis en même temps, il y avait tout le mouvement, on va dire, idéologique de l'extrême droite qui se manifestait sur Nancy avec la venue de leaders du Front National. On avait même un leader qui était pratiquement la rue Saint-Nicolas, hein, qui est devenu... c'était une quincaillerie d'ailleurs, c'était un idéologue aussi du Front National à l'époque. Et donc, on a rejoint à ce moment-là Nancy. On a eu, à l'époque, avec la mairie de Nancy, on a eu des locaux qui étaient au boulevard du 26e Marie, et avec un appartement qui a été détruit, qui est juste au-dessus du ballet théâtre de Nancy. Donc, on a, à ce moment, participé à toutes les manifestations, surtout contre la venue du Front National, contre la venue de Le Pen, d'ailleurs, qui devait... faire un grand discours au Parc des Expos, et on s'est retrouvé à 15 000 pratiquement sur les rues dans les rues de Nancy dans les années 92. Dans ces années-là, il y avait une grande mobilisation, il y a aussi on a fait un congrès au niveau de 54 associations qui ont généré toute une pédagogie pour dénoncer en même temps l'idéologie de l'extrême droite, ce qui fait que il y a eu un travail important d'explication pédagogique oui. sur l'extrême droite. Ce qui a fait que, on s'en aperçoit même actuellement, l'extrême droite n'est pas présente, on va dire politiquement sur Nancy, aux commandes. C'est depuis même sinon il n'y a jamais eu d'élus, alors que autour on peut dire que ça foisonne actuellement. Donc vu le contexte et puis comme ça c'est un peu calmé, on va dire on sait plus. Donc c'est en 89 c'est créé ce qu'on appelait la Fédération nationale des maisons des potes. Mm-hmm. C'était des maisons des potes d'éducation populaire. Oui. Qui intervenaient dans les quartiers, il y en a à peu près une cinquantaine actuellement. D'ailleurs, j'assure la présidence de cette fédération au niveau national.
D'accord.
Et on continue aussi à mener un combat, même juridique. On vient de faire condamner Zemmour, même s'il avait été en cassation. Et la Maison des potes de Nancy est née dans les années aussi 89, où on avait cet appartement au-dessus de la... du Ballet Théâtre de Nancy.
Qui a fusionné ensuite avec une autre association, voilà. Solidarité Roumaine, c'est ça ?
Voilà, c'est ça.
Et qui a donné, du coup, Potentiel Solidarité.
Absolument, j'ai toute l'information, finalement. Effectivement, en 89, vous savez qu'il y a eu ce qu'on a appelé la Révolution Roumaine, même si après on s'est rendu compte que ce n'était pas une si grande révolution qu'on le croyait, mais bon... en 89, on a mobilisé, comme à la hauteur de Nancy, comme moi j'habite Lunéville, on s'est mobilisé sur Lunéville pour apporter une solidarité à la Roumanie. Et au fait, on s'est rendu compte en même temps que Lunéville avait des liens avec la Roumanie, parce que le prince de Roumanie, ceux qui vont fonder la démocratie en Roumanie, sont venus étudier à Lunéville.
Ah bah ça, c'est une belle anecdote.
Voilà, c'était donc le prince Michel avec un écrivain, un philosophe qui s'appelle Cogliciano.
D'accord.
Voilà, et des moines, justement, étaient partis en Roumanie et il y a eu un retour, ce qui fait qu'on a développé une action continue pratiquement jusque dans les années 2000 et on a encore des amis... en Roumanie, on a développé des actions comme la création de lieux pour enfants, des espaces pour enfants. On a fait tout un travail avec l'association Réalise à l'époque, avec un projet de formation autour du travail social, autour de la prise en charge de l'enfance. Donc il y a tout un travail qui a été fait. Du coup, la Maison des potes et la solidarité s'imposaient à nous et on a fusionné deux associations qui sont devenues Potentiel Solidarité et qui est maintenant basée sur Lunéville avec des actions en direction des collèges où on arrive à toucher, par exemple, sur les discriminations, on arrive à toucher jusqu'à 700 élèves. Ça passe avec le théâtre.
D'accord.
On met en œuvre, si vous voulez, tous les préjugés qu'on rencontre, soit dans nos croyances, soit dans notre communication de tous les jours, et on les traduit en conte avec une amie qui est metteur en scène, et puis avec les bénévoles de l'association qui vont dans les collèges, on va reprendre d'ailleurs de nouveau cette année, parce qu'il y a la semaine d'éducation contre le racisme qui a un moment disparu des radars, qui est revenu, qu'on faisait aussi au niveau des collèges, même sur Nancy, sur Pont-à-Mousson, il y a 2 ans. Donc, c'est vrai qu'on ne communique pas assez sur ces questions-là, parce qu'on s'est rendu compte que chaque fois qu'on a communiqué sur l'extrême droite, paradoxalement, les scores augmentent. Alors, du coup...
Ça fait un peu l'effet inverse.
Voilà, c'est... Malheureusement, c'est ce qui se passe actuellement. Le contexte actuel, on le voit politiquement au niveau du monde. Le Chili, il y a le nazisme qui revient.
Qui vient d'arriver, oui.
Le contexte mondial fait que actuellement, on est dans une situation, c'est vrai, qui est un peu obscure. On a besoin actuellement de lumière.
On y reviendra, et c'est aussi pour ça que vous êtes là, c'est aussi pour mettre en avant tout ce qu'au niveau local, vous pouvez mettre en œuvre, justement, pour contrer tout cela. Voilà. Je propose qu'on se fasse une première pause musicale. On va écouter Nina Simone avec Strange Fruit.
Seven trees bearing strange fruit, blood on the leaves, and blood at the roots. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South, them big bulging eyes and the twisted mouth. Scent of magnolia, clean and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck. The rain together, for the wind to suck, for the sun to rot, for the leaves to drop.
RCN, les masques tombent.
Vous êtes toujours dans votre émission Les Masques Tombent et on vient de s'écouter Nina Simone avec Strange Fruit. Nina Simone, une grande jazz woman militante des droits civiques aux États-Unis. Merci Laila pour ce choix musical. Je vous propose qu'on maintenant qu'on a fait les présentations, qu'on discute un peu aussi de tous ces sujets pour lesquels vous êtes engagé au quotidien. Je propose de déjà donner quelques chiffres que j'ai pu trouver sur les discriminations. En tout cas, en ce moment, disons, dans ces dernières années, selon l'INSEE, 48% des personnes victimes de discrimination affirment avoir subi ce traitement du fait de leurs origines. Selon la Commission nationale consultante des droits de l'homme, 1,2 million de personnes sont victimes d'au moins une atteinte à caractère raciste, antisémite ou xénophobe. 8500 crimes et délits ont été recensés en 2023. 6400 contraventions également. On remarque que c'est des chiffres qui sont ce qu'ils sont, qui restent alarmants. Vous parliez tout à l'heure, Mohamed Ben Chaban, d'une évolution quand même du pouvoir que pouvaient avoir des associations sur la tolérance, justement réussir à contrer toutes ces discriminations. Et je voulais qu'on parle un peu plus en détail de vos actions, par exemple du côté de Amnesty. Pourquoi avoir fait ce choix de travailler, de faire de la prévention, de la sensibilisation, notamment auprès des jeunes? C'est quoi qui est plus important? Pourquoi ce public-là? Pourquoi?
Les discriminations, ce qui est très compliqué, c'est que c'est un phénomène qui se fait assez naturellement, dans le sens où on adopte certains stéréotypes, certains préjugés, et au bout du compte, en fait, on se retrouve à appliquer en fait des discriminations sans même s'en rendre compte. Mmh. Et c'est là où c'est très important en fait de s'y prendre très tôt. Et c'est pour ça qu'au sein du pôle sensibilisation d'Amnesty, on essaie d'agir au plus proche de la jeunesse, parce que c'est là où les idées reçues en fait, se forment, et c'est là où les esprits, les cerveaux aboutissent à certaines mentalités. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie justement d'aller voir ces jeunes, de leur expliquer ce que c'est avec des mots simples. On fait vraiment un travail de vulgarisation qui est ouf. Et c'est pour ça qu'on est aussi énormément de jeunes en fait, à directement intervenir auprès des jeunes pour essayer de faire en sorte que cette transmission elle, se fasse le plus clairement possible et le plus simplement possible. Et en fait, c'est cette idée des discriminations qui sont de plus en plus fréquentes, mais qu'on a normalisé en fait tellement plus qu'avant, qui fait que c'est d'autant plus difficile en fait de combattre tout ça. Et c'est pour ça qu'on s'y prend vraiment dans un travail de prévention avant, pour essayer en fait d'éviter au mieux tous ces actes discriminatoires, racistes, antisémites, voilà quoi.
Parce qu'effectivement, on parle de discrimination, mais rien que le terme discrimination en fait est plutôt vaste. C'était vous qui le disiez, Gauthier, tout à l'heure, c'est que en fait ça peut être plein de choses et parfois même des discriminations on peut ne pas s'en rendre compte. J'ai noté quelques exemples. Vous dites si j'en oublie ou si vous êtes d'accord, mais ça peut être des idées reçues, simplement des stéréotypes. Ça peut être des injures, ça peut être des menaces, ça peut être de la violence, ça peut être de la restriction. Lié par exemple à l'accès au travail, à l'accès aux droits. Est-ce que ça, par exemple, c'est des choses que vous avez vécues, vous, avant ou pendant votre histoire?
Moi, je veux revenir à ce que vient de dire Leïla. Elle dit quelque chose de très juste. Nous sommes tous des discriminants, en fait. Et le fait que de dire de travailler avec l'enfant, c'est travailler justement là où se construisent les préjugés. Là où on commence à côté du voisin ou de la couleur de la peau, ou la couleur de la peau, identifier celui qui est mon semblable comme quelqu'un de différent. Mm-hmm. Alors qu'on devrait plutôt travailler plutôt la question de la ressemblance. Nous avons plus de ressemblance que de différence en réalité. Moi, je prenais souvent l'exemple, là, même quand j'allais dans les lycées ou dans les collèges, j'y vais moins, c'est vrai, actuellement. Mais de dire, par exemple, quelqu'un qui est au fond de l'Afrique et qui rencontre quelqu'un du pôle Nord, par exemple, s'ils forment un couple, ils feront des enfants. Et les enfants qui étaient dans les écoles sont étonnés parce qu'ils disent... Parce que même l'imaginer, ça, c'était pas dans la représentation. Mmh. C'était pas dans la représentation qu'on avait... Que l'être humain est est unique en même temps, mais que... c'est pas parce qu'il est pluriel qu'il perd la ressemblance qu'il a avec l'autre. Et je pense que ce qui est important, et ce que je voulais dire par rapport, préciser par rapport à SOS Racisme, quand on parlait de SOS Racisme Lorraine, c'est que j'ai été fonctionnaire au Conseil Général à l'époque, et le Conseil Départemental maintenant. Et Mathieu Klein, qui était vice-président, m'avait chargé de m'occuper des discriminations à l'époque. Au niveau du département, on avait fait un plan départemental sur les discriminations. Et en même temps, j'étais à l'époque effectivement président des SOS Racisme. Mais neutralité oblige, on a mis ce qui est fait que SOS Racisme est devenue un peu dormante. Parce que il y a eu des actions importantes avec le département. Il y a eu avec la SNL, et avec il y a eu des conventions avec les... Et je pense que les actions qui sont à reprendre, c'est ces actions-là qu'il faut pérenniser et reproduire. Par exemple, sur les terrains de foot, on a vu les insultes qui ressurgissent avec les noms d'oiseaux, etc. Donc je pense que c'est des actions comme ça qu'il faudrait qu'on arrive collectivement à mettre en place.
Ça résonne aussi un peu avec les actions que vous menez, dont vous aviez parlé tout à l'heure, Gauthier, notamment de faire des affiches, rendre aussi, essayer de parler de ça de manière un peu artistique aussi, ça permet de rendre le sujet plus normal, en tout cas à traiter avec des plus jeunes.
Alors je pense aussi, ce qui est important avant tout ça, il y a un travail de réflexion, c'est-à-dire qu'il faut s'actualiser avec la nouvelle génération, c'est-à-dire qu'il y a une façon de leur parler. Donc nous, par exemple, aujourd'hui, on n'est pas du tout dans une démarche coercitive, on ne vient pas pour dire aux gens, voilà, tu dois penser comme ça, ce que tu fais, c'est pas bien. Déjà, il y a un travail d'écoute approfondie qui est fait, de savoir pourquoi les gens pensent comme ça. Mmh. Est-ce que justement c'est dû à une mauvaise expérience? Est-ce que c'est dû à l'éducation des parents? Est-ce que c'est dû aux médias? Donc déjà, c'est ces choses-là qui sont importantes. Oui. Ensuite, après ça, on arrive à distinguer si c'est basé sur de l'ignorance ou de la crainte, la peur de l'autre, etc. Il y a un amalgame aussi qui est fait tout à l'heure quand on parlait de la discrimination. Déjà, on leur explique qu'est-ce que veut dire la discrimination et qu'est-ce que veut dire le racisme. Parce que souvent, c'est utilisé à mauvais escient. Donc, on observe aussi un ras-le-bol de ces discours-là auprès des gens parce qu'ils nous disent « Oui, mais vous nous emmerdez avec le racisme ou c'est plus là, etc. » Mais en fait, on se rend compte que déjà, les gens, fondamentalement, au sens stricto sensu, ils savent pas ce que c'est le racisme. Oui. Donc, on est obligé de leur expliquer l'idéologie, etc. Ensuite, la discrimination, quand les gens disent « Oui, on m'a discriminé », on leur explique aussi qu'il faut que derrière, il y a la volonté d'aliéner, de traiter différemment en fonction de ci et ça. Donc, ça, c'est les premiers points qu'on aborde avec eux. Et ensuite, moi, je leur explique vulgairement aux enfants que la discrimination, ça dépend de l'imagination de chacun. Donc, ça renvoie un peu à ce qu'on disait, qu'on est tous des discriminants, parce que finalement, souvent, par exemple, quand on peut, dans une salle de classe, si on aborde le problème de racisme, c'est vrai qu'il y a des enfants qui ne vont pas du tout se sentir concernés. Mais quand on leur parle de discrimination et qu'on parle, bah tiens, ça pourrait... par exemple, si toi, tu es relativement fort et que du coup, ce n'est pas des choses qui te touchent, mais peut-être que ça peut toucher ton petit frère, ton cousin, mm-hmm. ta grand-mère, etc. Et donc là, ça devient plus percutant pour eux parce que c'est des choses qui commencent à leur parler. Donc en fait, nous déjà, on englobe tout ça dans ce qui est la tolérance et le vivre ensemble.
Oui.
Et déjà, ça, bah, en fait, ça commence à résonner avec eux et on comprend que par la suite, ils commencent à se livrer. Parce que si vous allez dès le départ en disant c'est comme si, c'est comme ça, vous allez vite perdre leur attention, en fait, finalement. Parce que eux, aujourd'hui, ils sont guidés par ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux et compagnie. Avant, on n'était pas dans la même optique. Là, tout à l'heure, on parlait de... du fait que, enfin des chiffres,
ouais.
Mais il me semble que selon le rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, il disait que l'indice longitudinal de tolérance
augmente.
Voilà, justement. Là il a augmenté à 63, alors qu'entre 2022 et 2023, il est passé à 65.
Je voulais venir après justement à ces statistiques, donc c'est aussi un bon signe ça.
Voilà, exactement. Donc c'est un signe qu'on va dans la bonne direction. Malheureusement aussi, le côté de la parole décomplexée fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont utiliser des termes, parfois pour blesser, qui n'ont rien à voir potentiellement eux-mêmes dans leur esprit avec la discrimination. Ils ne savent pas qu'en fait, ils sont en train de discriminer. Donc c'est ça aussi, c'est vraiment les sensibiliser et les mettre face à leur responsabilité aujourd'hui qui est par exemple, et là j'englobe aussi le harcèlement scolaire etc, d'actualiser aussi les parents. Parce que c'est vrai que les parents, eux dans leur état d'esprit, si leur enfant rentre on m'a insulté à l'école, oui mais bon eh ben, t'es plus fort que ça, tu t'en fiches etc, ils se rendent pas compte en fait que la cruauté actuelle de l'école. Parce qu'en fait, l'école, c'est le microcosme de la société actuelle. Et un enfant, s'il représente pas ci, s'il n'a pas ci, s'il n'a pas ça, il est vite mis en marge. Mmh. Donc toutes ces choses-là, en fait...
Surtout à cet âge-là, oui, c'est vrai que c'est naturel de mettre quelqu'un de côté pour une différence.
Voilà, donc c'est toutes ces choses-là, finalement, on les met en situation. Et du coup, là, on se rend compte qu'effectivement, il y a du travail à accomplir. Mmh. Mais pour revenir à ce que M. Benjamin disait tout à l'heure, justement, c'est ce qui m'était apparu. Parce que moi, bon, je suis de Nancy, j'ai grandi à Nancy. Et lorsque j'ai eu ce qui m'est arrivé, j'ai eu énormément de soutien, plus que je n'imaginais. Et j'avais des gens dans la rue qui venaient me voir et qui me disaient, tu sais quoi, ça nous fait plaisir de voir que toi, tu as réussi à médiatiser ton affaire, tu as réussi à judiciariser, parce que nous... En général, quand ça nous arrive, on laisse tomber parce qu'on se dit qu'on ne sera pas pris au sérieux. C'est un processus qui est très long. On ne sait pas à qui s'adresser. Et moi, c'est vrai que j'avais eu une chance d'avoir SOS Racisme qui est venu parce que, au-delà du fait que je connaissais pas mal de monde et que, il y a toujours la justice, Mais quand on ne sait pas par où commencer, parce qu'on est quand même dans un état psychologique dès le départ où on se dit on a du mal à réaliser. Et donc, c'est vrai que ce soutien-là, il n'est pas inutile. Et c'est là où, en fait, vraiment, je me suis dit, ok, c'est mon devoir, parce que si je dois être très honnête avec vous, moi, de base, le racisme ou la discrimination, c'est pas que je m'y intéressais pas, mais ça n'avait pas d'impact sur ma vie. D'accord. C'est-à-dire que la façon dont j'ai été élevé, mes parents m'ont dit, écoute, t'es de couleur, t'es comme ci, t'es comme ça, tu travailles deux fois plus, et du coup, tu laisseras moins l'occasion aux gens de pouvoir te critiquer, et c'est par tes actions que tu vas montrer qui tu es. Donc moi, j'ai un peu grandi dans un environnement où, finalement, je suis très résilient. Mais c'est vrai que ça m'a renvoyé avec tous ces témoignages aux gens qui, du coup, n'ont peut-être pas cette résilience-là. Et c'est ça, c'est par là que le combat a commencé. Et donc, par rapport au football, c'est vrai que j'avais pas mal d'amis qui étaient à la SNL et qui me confiaient parfois, nous, en fait, on se retrouve très jeunes au milieu de personnes qui, avec qui on a un but commun, mais que, qui ne nous ressemblent pas forcément, on a des réflexions parfois bah, homophobes, des réflexions racistes, qui ne sont pas forcément prises au sérieux, puisque dans le foot, il faut garder un certain aura, il faut garder un certain mental, et puis du coup, il y a un peu ce côté très primitif dans les insultes et dans le comportement. Et c'est vrai que ça a été vraiment ma première chose sur laquelle je me suis dit le sport est un facteur de cohésion sociale.
Oui.
Et donc, du coup, je voulais utiliser ça comme levier pour justement sensibiliser les jeunes et sensibiliser aussi maintenant les parents. Mais c'est vrai que le foot en particulier, mais le sport en général, réunit énormément en dépit de là où vous venez, de qui vous êtes, ce que vous avez. Et c'est pour ça que... comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai voulu vraiment commencer un travail de collaboration, donc avec les collectivités, parce que je suis venu leur expliquer mes projets, et encore comme je le soulignais, ben, ils ont été très réceptifs tout de suite, et ils ont trouvé que c'était une bonne idée, et donc on a mis en place toutes ces choses-là, pour justement impacter le plus de monde possible.
Ça, c'est surtout la commune de Nancy qui est à l'œuvre avec le plan qu'ils ont mis en route, et sur lequel... vous avez été sollicité.
Alors non, moi je parlais de mes actions spécifiques.
Non, mais je parlais au niveau de la mairie de Nancy, parce que j'en parle aussi pour les connaître un peu déjà, hein, parce que je sais qu'ils sont très sensibles à
Alors oui, c'est ce que je dis, je ne remets pas en cause que la mairie de Nancy, mais non, là je parlais des idées dont, que vous n'avez pas idée actuellement, mais je parlais des idées liées au sport que moi j'ai mis en place, donc c'est moi qui proposais le projet, et d'ailleurs c'est une grande première en France. Et ça, c'est pas la mairie. La mairie, par contre, m'a soutenu dans ma démarche, mais c'est moi qui ai approché la mairie pour ce projet en question, dont je fais allusion. Mais ça, c'est un projet qui n'est même pas encore public.
Mais je crois que ce qui est important, parce que là, il faut qu'on reprécise quelque chose qui me paraît important, c'est qu'actuellement, la parole raciste, et la, on peut dire discriminante, elle est portée par des politiques. Il faut pas qu'on... Je veux dire, on peut avoir toutes les pédagogies qu'on veut, mais quand on voit actuellement à la hauteur des propos qui sont tenus avec des hommes politiques qui modélisent justement cette idéologie-là et qui la transmettent, il faut pas s'étonner en même temps que les comportements des personnes, je veux dire, des personnes ne se traduisent pas par des faits. On a des faits même criminels qui se manifestent. Donc, il ne faut pas non plus qu'on soit dupe par rapport à ça. C'est-à-dire que les associations ne sont pas là simplement pour faire de la pédagogie. Elles sont là aussi en termes d'alerte. C'est ça le but de la loi des associations, la loi 1901. C'est d'être aussi, à un moment donné, de proposition d'un autre modèle que celui que nous présentent certains politiques actuellement. Les politiques d'extrême droite, il n'y a pas à se cacher là-dessus.
Et c'est là où, paradoxalement et même malheureusement, on a énormément normalisé en fait les propos discriminants et les actes discriminants. Ici, dans le cas du sport et du foot, quand quelqu'un dit quelque chose de discriminant, voire raciste, antisémite, homophobe, la personne ne se rend pas compte clairement des propos qu'elle tient. Et lors de ma, enfin moi j'ai eu un exemple frappant lors de ma dernière intervention dans un lycée, donc c'était un lycée professionnel de sportifs. On avait justement une intervention sur les discriminations et le racisme, et on expliquait que les propos discriminants en fait étaient condamnés par la loi et qu'ils étaient en fait tous listés les critères de discrimination. Et il y a un jeune avec son ami qui vient nous voir à la fin de l'intervention et qui nous dit la dernière fois mon pote il m'a traité de sale arabe. Et ben on lui a dit, dans ce cas-là, c'est vraiment grave et c'est puni par la loi. Et il m'a dit, mais après, je m'en fous, je sais qu'il m'aime bien, c'est mon pote. Qu'est-ce que ça me fait, en fait, qu'il me dise ça, puisque en soi, c'est pas si faux. Et donc, nous, on lui a dit, dans ce cas-là, toi, tu le prends comme ça vient. Mais la réalité, c'est que plus ça va être utilisé dans les cadres extérieurs, en fait, aux politiques, extérieurs aux situations sérieuses et professionnelles, plus c'est normalisé et plus c'est acceptable pour beaucoup de personnes dans la société.
Ouais. Moi, je suis responsable du Café Social 54. Pour prendre un exemple précis, entre les détours, pour illustrer le propos par rapport aux responsabilités politiques, entre les détours des législatives, on a une vieille dame qui a pratiquement 80 ans, qui remonte du Café Social le soir, elle remonte, elle habite à Vendôme. Une voiture s'arrête, avec quatre bonhommes qui l'agressent carrément en lui disant oh, « sale bougnoule, retourne chez toi ». Elle est, jusqu'à présent, elle est touchée parce que c'est une dame qui a travaillé pendant une cinquantaine d'années en France. Elle n'a jamais eu vraiment de problème, que ce soit par rapport au fait qu'elle soit un peu plus basanée que d'autres. Et on a fait toute une réunion au café social par rapport aux discriminations, par rapport au racisme, à ce qu'elle a vécu. Mais, heureusement qu'il y avait d'autres jeunes qui passaient par là, qui n'ont pas supporté, mais elle serait fait vraiment, ils l'auraient violentée, j'en sais rien, mais heureusement qu'il y a eu une intervention de jeunes qui, en même temps, ont paré cette agressivité. Donc, vous voyez, c'est comme une balance actuellement. Il y a des gens qui sont contre le racisme, mais il y en a qui sont pour. Donc, il faut qu'on trouve, nous, les moyens, justement, de pouvoir alerter sur des situations comme ça, qui sont dangereuses, et qui mettent, quand tu parles du vivre ensemble, le vivre ensemble, il est mis en brèche avec des situations comme ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on... Et puis, on le voit actuellement. C'est vraiment... si on prend la question de l'islam actuellement, cette dame-là est musulmane. Ce qu'on lui a dit aussi par rapport, parce qu'elle portait le voile, etc. Il y a une forme aussi actuellement de confusion avec des mouvements intégristes, il ne faut pas le nier. Mais on voit bien que l'islam n'y est pour rien, mais utilisé par certains politiques, on le voit il y a un élu qui est bien sûr d'origine maghrébine, qui est élu député sur la Moselle. Il a été insulté par un autre député du RN.
Après, tout à l'heure, vous avez cité un chiffre qui était de 45% de personnes qui 48, affirmaient, ouais. 48% ouais. de personnes ouais. qui affirmaient avoir été discriminées en raison de leur ethnie ou de leur religion. De leur origine. Après, je pense qu'il y a aussi quelque chose de très important, c'est qu'il ne faut pas oublier que la discrimination, elle touche bien plus de domaines que l'ethnie, la religion, bien l'origine. Enfin, dans le code pénal, en fait, il y en a plus de 25 en réalité qui sont définis et qui sont dits clairement. On peut y compter le handicap, le genre, l'orientation sexuelle. Il y a tellement de choses en fait qui peuvent être discriminatoires.
Au niveau des critères, oui.
Et aujourd'hui, c'est là où c'est d'autant plus compliqué en fait de lutter contre les discriminations, parce que en fait, ça se confond à plein d'autres sujets. Ça se confond, comme vous l'avez dit, au racisme, à l'islamophobie, à l'antisémitisme, à l'homophobie. Donc finalement, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'actes discriminatoires parce qu'on a aussi mis des mots sur là où est-ce que ça pouvait être discriminant. Et je pense que c'est vraiment important, et c'est pour ça qu'on se rend compte qu'on avance en fait de plus en plus dans ces questions-là, parce qu'on définit les termes, on le dit clairement, on s'accorde tous en fait sur les mêmes notions.
On a mis des mots, M-A-U-X aussi, sur les mots.
Mais justement, est-ce que, on parlait aussi justement de l'indice de tolérance qui augmente, est-ce que vous, justement, par ce travail aussi de sensibilisation, par ce dialogue avec des citoyens jeunes et moins jeunes, est-ce que vous sentez aussi qu'il y a une prise de conscience collective au niveau des publics que vous touchez qui s'améliore? Est-ce que j'imagine que cet indice de tolérance, il est quand même lié à une évolution positive globale. Est-ce que vous le ressentez, vous, auprès de vos bénévoles ou des publics que vous touchez?
Alors, auprès d'Amnesty International, ce qu'on fait, mon collègue, qui travaille beaucoup plus sur l'aspect culturel, sur mettre aussi les mots, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'auprès de la jeunesse, on essaie de mettre en place en fait, des ateliers ludiques. Mmh. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on leur met des jeux, des mises en situation. On leur dit, OK, nous, il y a un jeu qu'on aime beaucoup dans l'antenne de Nancy. Ça s'appelle le jeu du bus. Et on leur propose de s'aligner et de se mettre à côté d'une personne. Donc, jusque-là, ils n'ont que le nom de la personne. Donc, une personne âgée, une businesswoman, un homme musclé. Et en fait, ils choisissent à côté de qui ils sont censés se mettre assis à côté du bus. Et après, une fois qu'ils se sont installés, on leur dit, OK, retournez vos cartes. Et en fait, ils se retrouvent devant une image qui correspond vraiment à quelque chose tout à fait autre que ce qu'ils auraient pu s'imaginer. Donc, par exemple, la carte de la businesswoman, une fois qu'elle est retournée, c'est une femme qui a ouvert un salon de tatouage, qui est toute tatouée et le crâne rasé, quoi. Et donc, ce qu'on leur dit, c'est, vous voyez, si indirectement et vous avez, en fait vous avez intériorisé des préjugés.
Ouais.
Et donc là, en choisissant la businesswoman, tu t'es imaginé te mettre assis potentiellement d'une femme bien habillée qui avait une grande entreprise, et finalement tu te retrouves à côté d'une vraie businesswoman qui elle a un salon de tatouage, etc., qui est, correspond en fait finalement à ce à quoi il était écrit sur ta carte.
Ouais.
Mais qui ne correspond pas aux idées reçues que tu avais.
Ouais.
Et en fait ils prennent beaucoup plus facilement conscience de tout ce qui est
tous les biais cognitifs,
de tous les
jouer.
Biais cognitifs, ouais. Exactement, et de tout ce qu'ils ont intériorisé en fait indirectement. Ouais. Et donc nous on joue beaucoup sur cet aspect ludique, on essaie de créer un peu d'humour aussi, on essaie de les amener avec nous pour qu'ils comprennent au mieux en fait les discriminations et les inégalités.
C'est un travail aussi sur les représentations, qui doit être important dans la... ce que fait par exemple au niveau des écoles, tout ça, des collèges. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Je vois ce qu'a fait Myriam Kellou, hein, sur la question coloniale, par exemple. Hein. Au lieu de démonter la statue du sergent Blandan, ils ont fait une statue avec un miroir. Je ne sais pas si vous êtes au courant.
Moi, je ne l'avais pas vu.
Vous n'avez pas vu ?
Non.
Ah, c'est extraordinaire. Ce qu'ils ont fait, c'est Myriam Kellou... Et Malek Kellou, c'est un cinéaste connu qui était à faire trois avant. Ils ont fait un miroir, fait avec justement le lycée, je crois, Chopin, qui ont fait tout un miroir, et chacun peut voir ce qu'il sait. Au fait, c'est le contre, et juste en face du sergent, enfin de la statue du sergent Blandan. Donc, au lieu de dire on démonte les... ils ont agi de manière positive pour mettre en évidence ce que c'était la colonisation. Et je trouve ça beaucoup plus positif que de... Et puis ça évite la violence, parce que...
Donc oui, comme on disait, donc c'est un long chemin parsemé d'embûches, parce que pour combattre du coup les stéréotypes qui sont ancrés, donc véhiculés soit par les médias, par les politiques, etc., c'est vrai qu'avec les jeunes, ce qu'on fait, c'était très bateau, mais par exemple... on va écouter les stéréotypes qu'ils ont par rapport aux personnes de couleur noire, aux personnes arabes, asiatiques, etc. Et on va leur montrer, c'est-à-dire que c'est un peu juste la symbolique de vous, on vous monte vers le bas, nous on va vous montrer vers le haut. Donc on va leur montrer du coup les personnes noires, donc aussi simple, par exemple Barack Obama, bah ouais, vous avez vu en fait, c'est une personne noire qui est devenue président. On va leur montrer du coup un arabe, bon, bah, Karim Benzema, vous avez vu, lui c'était... Et donc en fait... juste pour faire un peu le yin et le yang, c'est-à-dire que, et souvent ils disent, ah bah oui, parce qu'on leur demande les stéréotypes, ils vont dire, bah les Arabes par exemple, c'est des voleurs. Ou alors, la dernière fois, dans la dernière école dans laquelle j'étais, ils disaient, bah oui, mais on voit beaucoup de Noirs qui pillent les magasins de luxe, Louis Vuitton, Gucci, etc. Et j'ai dit oui, parce qu'on choisit de vous montrer ça, mais il y a aussi des personnes de couleur noire qui font ça. Et après, bah, du coup, la conclusion finale, c'est qu'ils disent, bah en fait, c'est comme nous les Blancs. Parce qu'ils disent, nous les Blancs, il y a des violeurs, il y a des voleurs, il y a de tout en fait. Et donc, à la fin, on leur dit, donc il faut juger la personne par ses actions, plutôt que la juger par rapport à ce qu'elle représente. Parce que vous-même, aujourd'hui, si vous allez dans un autre pays, eh ben, on peut dire, bah, oh, les Français, on leur montre les stéréotypes des Français, les Français sont sales, les Français sont arrogants. Et ils n'aiment pas.
Effectivement.
Donc du coup, nous, c'est des petites choses comme ça, en plus du travail ludique. Mais d'ailleurs, le jeu est un très bon jeu.
Et malheureusement, c'est là où aussi... Tu peux ?
Allez,
okay. Et malheureusement, c'est là où aussi revient toujours encore le même sujet des médias.
C'est
les médias et les réseaux sociaux qui véhiculent ces idées reçues, ces stéréotypes qu'on va intérioriser et qui, par la suite, en fait, vont créer toutes ces discriminations, tout ce racisme, toute cette homophobie. Enfin, tout à l'heure, vous parliez des politiques, mais le fait d'avoir justement des personnalités publiques qui ont une parole qui est écoutée et qui est représentée partout dans les médias et sur les réseaux sociaux, fait que par la suite, et c'est un peu fataliste, mais par la suite, on admet certaines réalités et on les intériorise et on fait avec, et on ne va pas chercher à comprendre le pourquoi du comment. Et c'est pour ça que tout ce travail auprès des jeunes est hyper important, parce que c'est là où ils doivent éviter en fait, de rentrer dans ces cercles vicieux et de s'arrêter à seulement ce qu'on leur donne à voir. Et pas ce qui est à voir.
Mais ce qui est malheureux actuellement, c'est ce portage politique par justement certains élus qui sont dans la lumière, parce que
Et l'utilisation à mauvaise escient
ils sont dans la lumière, cause, ouais. Mais ils plongent une partie de la population dans l'obscurité, parce qu'ils n'apportent pas la connaissance, ils n'apportent pas, je dirais, une richesse à notre société. Et je pense que c'est ça qui doit nous animer. C'est, vous savez, dans l'obscurité, ce qu'il faut pour se conduire dans l'obscurité, c'est qu'il faut augmenter la lumière.
C'est une très belle phrase. Je vous propose... chacun, si vous voulez, si vous avez tous une phrase qui vous vient, mais pour finir un peu, on va dire, sur une note positive, cette émission qui est très intéressante, si vous aviez quelques mots, justement...
Non, par contre, j'avais juste une dernière chose qui pose problème, c'est aussi le rire. Parce que souvent aussi, le rire, la définition, de quoi peut-on rire? Est-ce qu'on peut rire de tout? Donc c'est ça aussi, les jeunes, souvent, ils vont regarder des comédiens, des comiques, ils vont suivre les TikTokers, etc. Et c'est vrai que déjà, la frontière entre ce qui est acceptable ou pas, elle est vraiment fine, et puis en fait elle est très souvent dépassée, et donc ça c'est un problème. Et il y a aussi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure mais j'avais pas vraiment étoffé, c'était par rapport à l'amalgame aussi, parce que ce qui fait que parfois les gens n'ont plus envie de nous écouter, c'est parce que on a tendance à aussi incriminer les gens bêtement. Par exemple, il suffit qu'une personne dise moi je voudrais que l'immigration soit un peu régulée, il est raciste. Donc il y a tout de suite en fait
des raccourcis
ouais. Voilà. Et donc du coup les gens finalement on prend plus au sérieux à force de jeter le terme raciste à tout le monde juste parce que les gens ont une opinion différente de la nôtre. Et c'est ça aussi notre travail, c'est quand souvent il y a des victimes qui viennent me voir, ils vont me dire vraiment vulgairement moi je me suis fait virer, mon patron il est raciste. Et je lui dis quels ont été les tenants et les aboutissants? J'ai loupé 4 fois, le jour-là j'avais pas fait de travail, et donc là on lui dit là aussi encore une fois il y a des raccourcis. Donc c'est vrai que ces deux choses-là aussi c'est à ne pas négliger, parce que le rire c'est vraiment un problème, parce qu'aujourd'hui dans la société on a besoin de rire, on en a besoin parce que c'est quand même triste, mais il faut définir de quoi on peut rire, et surtout parce qu'on apprend aux jeunes qu'on peut pas rire de tout aux dépens des gens, parce que c'est pas, on leur dit que c'est pas à eux de décider de la sensibilité de l'autre personne. Si l'autre personne le reçoit d'une façon, même si toi ton attention elle est pas de blesser, faut prendre en considération la sensibilité d'une personne et à ce moment-là savoir respecter.
Mais l'humour est un véhicule aussi qui véhicule le racisme et la discrimination. Le problème c'est qu'il faut donner les clés de compréhension aux jeunes, parce que rire, tout le monde entendait des blagues où tout le monde se met même à rire de soi-même. Mais c'est la compréhension qui est importante. C'est le combat contre l'ignorance qu'il faut.
Et vous en parlez tout à l'heure, il y a des rires... est-ce qu'on rit de soi? Est-ce qu'on rit de la cause? Est-ce qu'on rit parce qu'on est obligé de rire et qu'on doit le prendre pour soi? Ou est-ce qu'on agit pour comprendre ce rire, je pense à quelqu'un comme Dieudonné qui avait été beaucoup mis en polémique pour pas mal de propos qu'il avait tenus, et il y en a encore beaucoup d'autres, mais justement vous parliez aussi de clés de compréhension. Si vous deviez donner une clé aujourd'hui qui pourrait se résumer en quelques mots et que n'importe qui pourrait appliquer pour essayer d'évoluer dans un sens plus favorable du vivre ensemble, ce serait quoi?
Souvent la liberté des uns commence là où celle des autres s'arrête. Parce qu'en fait, finalement, chaque personne doit définir ses propres limites. On a l'exemple avec l'enfant tout à l'heure qui disait que lui, ça ne le dérange pas, mais ça peut déranger d'autres personnes. Donc c'est important aujourd'hui d'avoir une certaine tolérance. Et ça se perd, en fait. Pouvoir dire, moi, j'estime que je fais une petite blague anodine, mais en tout cas, pour la personne qui le reçoit, pour le groupe qui le reçoit, c'est pas anodin. Ça, c'est la tempérance, en fait. Être modéré.
Moi, je pense qu'on a un triptyque républicain qui résume tout.
Oui.
Il n'y a pas la liberté, elle n'a pas de limite pour moi. Elle n'a pas de parce que la liberté. Pourquoi elle n'a pas de limite? Parce que quand on a réellement acquis la liberté, on n'a pas envie de l'enlever à l'autre.
C'est vrai.
Voilà. Et c'est pour ça. Hein. C'est pas autre chose qui me fait dire il n'y a pas de limite à la liberté. On le voit quand elle est limitée, les libertés quand elles sont limitées, quel régime on a. Amnesty doit le savoir, ça. L'égalité aussi est importante, parce que c'est celle-là qui nous permet de vivre ensemble. C'est celle-là pour laquelle on lutte, en réalité. Puis la fraternité, c'est la ressemblance. tout simplement. C'est la ressemblance entre les humains qui gomment ces différences. Et puis, je pense qu'on a, on a quelque chose d'unique en France. Il faut le reconnaître, c'est la laïcité. Malgré que certains la combattent, etc., c'est que toutes les religions peuvent exister, mais même fraternellement, elles peuvent exister, elles peuvent dialoguer. Il y a des dialogues de religions qui se font, à la différence du modèle anglo-saxon, ou qui est plutôt communautariste. On a cet avantage-là, et je pense que là où on doit justement être attentif, si on avait... Moi, c'est ce triptyque-là que je laisserai, mais en même temps, c'est d'être attentif à ce modèle-là. Mmh. C'est au contraire de développer ce modèle-là, de le vulgariser même.
Qui existe déjà.
Oui, ouais. Voilà, de le vulgariser.
Et vous, Leïla, si vous aviez...
Et pour fermer la boucle, moi, j'aimerais parler d'unité. Ouais. Parce que le slogan d'Amnesty International, c'est « On se bat ensemble, on gagne ensemble ». Et l'humain, dans toute sa singularité... Bien que chaque personne soit différente, en réalité, l'idée, c'est vraiment de pouvoir s'unir et s'unifier et se comprendre les uns les autres. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir combattre au mieux en fait, les discriminations, les inégalités, le racisme, l'antisémitisme, étant donné qu'en prenant en conséquence tous les aspects de la personne qu'on a en face de nous, on va pouvoir la comprendre et avoir un peu cette empathie et cette idée que... j'accepte l'autre, l'autre m'accepte comme je suis, et c'est comme ça qu'on vit ensemble, et c'est comme ça qu'on a cette unité qui se construit en fait vraiment au fur et à mesure entre chacun. Quoi.
Merci Leïla Yesh pour Amnesty, merci à Gauthier Pizzi pour SOS Racisme Lorraine, et merci à Mohamed Ben Chaban pour Potentiel Solidarité d'avoir été présent avec nous lors de cette table ronde. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés, merci à la DILCRA de nous soutenir, et à très bientôt, chers auditeurs, pour une prochaine émission des Masques Tombent.